Chers frères et sœurs, ce que nous essaierons d'évoquer, Inch'Allah, à travers ce modeste rappel, ce sont les vertus du jeûne et plus particulièrement celles du mois de Ramadan. Commençons tout d'abord par une brève définition. Siyam, ou jeûne, désigne en arabe l'abstinence. Appliqué à la religion, jeûner a pris le sens de se priver par piété, au manger, au boire et à tout ce qui est susceptible de rompre le jeûne, depuis l'aube jusqu'au lever du soleil. Quant à l'historique du jeûne, sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit le jeûne aux communautés antérieures à celle de la communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit: Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô croyants, le jeûne vous est prescrit comme il a été prescrit aux peuples qui vous ont précédés, peut-être vous perfectionnerez-vous. Et ainsi, ce fut un indice du mois de Sha'ban de la deuxième année de l'Hégire, 624 après Jésus-Christ, que fut institué le Ramadan, le jeûne du mois de Ramadan. Sachez tout d'abord qu'il y a différents types de jeûnes. Il y a des jeûnes surrogatoires et un jeûne obligatoire, le jeûne du mois de Ramadan. Quant au jeûne surrogatoire, il est louable dans les cas suivants. Il y a tout d'abord le jeûne du jour de Arafat, 9e jour de Dhul-Hijjah, pour les non-pèlerins. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: une absolution de 2 années, une année antérieure et une année ultérieure, est accordée à celui qui jeûne le jour de Arafat, et une absolution d'une année passée à celui qui jeûne le jour de Ashura, c'est-à-dire le 10e jour de Muharram. Et il est aussi recommandé de jeûner le jour de Ashura. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Dieu remet les péchés d'une année passée à quiconque jeûne le jour de Ashura. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûna ce jour-là et recommanda de le jeûner en disant: si je suis encore vivant l'année prochaine, et si Dieu le veut, je jeûnerai aussi le 9e de Muharram. Il y a en outre le jeûne des 6 jours du mois de Shawwal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: qui jeûne à Ramadan, puis le fait suivre des 6 jours du mois de Shawwal, est comme celui qui a jeûné toute l'année. En effet, on sait tous qu'une bonne action est rétribuée en décuple, c'est-à-dire une bonne action en vaut 10. Donc 30 jours de Ramadan, plus 6 jours de Shawwal, c'est égal à 36 jours multipliés par 10, soit 360 jours de jeûne. L'année de l'Hégire compte en 360 jours, celui donc qui fait ce jeûne aura la récompense de toute une année. Il y a aussi le jeûne de la première quinzaine de Sha'ban. Aïcha dit: je n'ai pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûner un autre mois que celui de Ramadan, et je n'ai pas vu jeûner plus de jours qu'au mois de Sha'ban. Il y a en outre le jeûne de la première décade de Dhul-Hijjah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: il n'y a pas de jour où les bonnes œuvres sont mieux agréées de Dieu autant que les 10 premiers jours de Dhul-Hijjah. Il est recommandé aussi le jeûne du mois de Muharram. Interrogé sur le meilleur mois de jeûne après Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit: c'est Muharram. On peut aussi jeûner les jours de pleine lune, c'est-à-dire le 13e, le 14e et le 15e jour du mois lunaire. Abu Dharr radiallahu anhu dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé de jeûner les 3 jours de pleine lune de chaque mois, à savoir les 13e, 14e et 15e jours. Ces 3 jours de jeûne équivalent au jeûne de l'éternité. On peut aussi jeûner le lundi et le jeudi. On rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait constamment pendant ces 2 jours. Interrogé à ce sujet, il répondit: les œuvres sont soumises à Dieu tous les lundis et jeudis. Le Seigneur pardonne tout musulman ou croyant, à l'exception de 2 personnes en discorde. Il dit: ajournez ces 2-là. Et il est permis aussi de jeûner 1 jour sur 2. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ce propos: le jeûne le plus agréé de Dieu est celui de Daoud, David. La prière la plus agréée de Dieu est celle de David. Il dormait la moitié de la nuit, veillait le tiers, puis il se recouchait le 6e. Il jeûnait 1 jour et rompait son jeûne le jour suivant. Il existe aussi le jeûne pour le célibataire qui n'a pas les moyens de se marier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: quiconque est capable de se marier, qu'il se marie. C'est le meilleur moyen d'empêcher les regards et les organes sexuels de commettre des actes immondes. Celui qui est incapable de se marier, qu'il jeûne. Cela émousse son ardeur. Passons maintenant au jeûne du mois de Ramadan. Le jeûne de Ramadan est un devoir prescrit, mentionné dans le Coran, la Sunna, et fait l'unanimité de ulama, des savants. Allah subhanahu wa ta'ala dit, dans surat al-Baqarah: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصمه. Le mois de Ramadan est celui au cours duquel le Coran était révélé aux hommes comme guide de conscience, comme règle de morale et comme critérium du bien et du mal. Quiconque verra ce mois apparaître devra commencer le jeûne. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'islam est bâti sur 5, attester qu'il n'y a de dignité qu'Allah et que Mohammed est son messager, exécuter la prière, procurer la zakat, le mois légal, jeûner le ramadan et faire le pèlerinage à la maison sacrée. Et dans le hadith de Talha ibn Ubayd, un homme a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulullah, messager de Dieu, informez-moi des jours que Dieu m'a obligé de jeûner. Le prophète a répondu, le mois de ramadan. La plupart des livres révélés nous l'ont été durant ce mois béni. Par exemple, le Coran en entier a été descendu du Lawh al-Mahfouz, la table gardée, au ciel le plus bas, et de là il s'est révélé par fragments sur une étendue de 23 années. De même, Ibrahim alayhi salam a reçu son Sahifa, petit livre, le 1er ou le 3 de ce mois. Daoud alayhi salam a eu le Zabur, le Tzom, le 12 ou le 18 du Ramadan. Moussa alayhi salam a reçu le Taurat le 6 du Ramadan. Et enfin, Isa, Jésus, a eu l'Injil, l'Évangile, le 12 ou le 13 de ce mois. Dans un hadith, il est dit que Jibreel alayhi salam, chaque année dans ce mois, venait vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui récitait le Coran intégralement. C'est pour cette raison que nous aussi nous devons amplifier et intensifier nos lectures dans ce sens. Le Ramadan, ce mois béni, sacré, est une faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala pour le compte des musulmans. Dans un hadith, il est dit, si les gens savaient ce que c'est que le Ramadan, alors ils désireraient que l'année entière soit le Ramadan. Il est dit également dans un autre hadith, jeûner pendant le Ramadan, et en plus 3 jours de chaque mois, éloigne du cœur les mauvaises intentions et les doutes. Tellement il connaissait sa valeur que les sahaba radiallahu anhum, même en étant en période de guerre durant le Ramadan, prenaient toute précaution pour garder le jeûne. Salman radiallahu anhum raconte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la fin du mois de Sha'ban, leur a fait un discours en disant, vous avez un mois qui approche, un mois qui est d'une grande valeur et de bénédiction. Ce mois contient une nuit, la nuit d'Al-Qadr, Laylatul Qadr, qui est meilleure que 1000 mois. Durant ce jour-là, Allah a prescrit le jeûne, et durant ce nuit, le Tarawih est compté pour acte de récompense. Et pour un acte surrogatoire accompli pendant ce mois, on aura la récompense équivalente d'un fard, d'une obligation des autres jours. Et la récompense d'un fard, d'une obligation de ce mois, est équivalente à la récompense de 70 obligations des autres jours. C'est un mois de sabr, de patience, de résignation. Et la rétribution du sabre, de la patience, de la résignation, c'est le paradis. C'est un mois de mutualité. Celui qui donnera l'iftar à un jeûneur aura le pardon de ses péchés, la préservation du feu, de l'enfer, et en plus il aura autant de récompenses que le jeûneur lui-même à cause de cet acte. En écoutant ceci, le sahaba disait, « Ya Rasulullah, le prophète d'Allah, nous n'avons pas tous la capacité de donner l'iftar à un jeûneur. » Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam répliqua, l'iftar ne signifie pas donner à manger à satiété, car même en donnant une date ou un peu d'eau, Allah vous accordera cette récompense. Une porte du paradis est réservée exclusivement aux jeûneurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, une des portes de paradis est appelée porte de Rayyan, la porte de rafraîchissement. Seuls ceux qui jeûnent la franchissent. Il sera dit, où sont ceux qui jeûnaient? Ils se lèveront alors et entreront. Aucune autre personne ne la franchira. Elle sera refermée à jamais. Ce mois est divisé en 3 décades. Les 10 premiers jours sont bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. La 2e décade est pardon d'Allah. Et les 10 derniers jours sont libération du feu de l'enfer. Et Abu Huraira radiallahu anhu rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mon peuple, ma umma en particulier, a eu 5 choses concernant le ramadan que les peuples précédents n'ont pas eu. Premièrement, la mauvaise haleine de la bouche de celui qui jeûne est plus agréable à Dieu que l'odeur du musc. Les poissons ne cessent de prier pour les jeûneurs jusqu'au coucher du soleil. Chaque jour, le paradis est préparé pour ceux qui sont destinés à y entrer. Allah subhanahu wa ta'ala annonce, il n'est pas loin le moment où mes bons serviteurs se libéreront de leur fardeau de ce monde pour accourir vers toi. Et ensuite, les démons sont enchaînés. Ainsi, durant ce mois, ils ne peuvent engendrer les vices qu'ils font naître tous les autres jours. Et enfin, les jeûneurs sont pardonnés dans la dernière nuit du Ramadan. Là-dessus, les sahaba radiallahu anhum questionnent. Cette nuit est-elle la nuit d'Al-Qadr? Non, répliqua le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais en principe, les travailleurs ne reçoivent leur salaire qu'une fois leur besoin terminée. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité les cinq choses qu'Allah a léguées à sa umma, son peuple en particulier, et dont les jeûneurs des autres peuples n'ont pas eu la jouissance. Maintenant, peut-être prendrons-nous conscience de la valeur de cette grâce et ferons-nous des efforts pour la mériter. En revenant au hadith, l'istighfar de poisson en faveur des jeûneurs est encore un don d'Allah à son peuple, c'est-à-dire qu'un grand nombre de créatures prient pour ces jeûneurs. Les poissons en particulier prient pour les jeûneurs en vertu d'un verset du Coran qui nous dit que ceux qui ont la foi et qui font de bonnes actions, le miséricordieux leur procurera dans ce monde même de l'amitié. Il est dit dans un hadith, quand Allah aime quelqu'un, il ordonne à Jibril alayhi salam de l'aimer lui aussi. Puis, ce dernier annonce dans le ciel qu'un tel est aimé par Allah, et vous aussi aimez-le. Et cette affection, cet amour se propage parmi les personnes du milieu, jusqu'à ce qu'elle dépasse les créatures vivant sur la terre pour atteindre et imprégner celles qui vivent dans l'eau. Et nous comprenons que c'est ainsi que certaines créatures terrestres reçoivent les du'as, les bénédictions de certaines espèces aquatiques. La préparation du paradis constitue également un des éléments mis en place à notre faveur. Il est écrit dans plusieurs hadiths qu'au commencement de l'année même, le paradis fait l'objet de nombreux ornements et garnitures pour la venue du Ramadan Mubarak. De plus, les puissances maléfiques telles que les démons sont enchaînées durant ce mois. Ainsi, l'esprit du mal et les vices diminuent. Ce mois aurait été une bonne occasion pour que les démons réunissent tous leurs efforts pour tromper l'homme au moment où il a le plus besoin de se concentrer dans la prière et dans les devoirs religieux. Là aussi, Allah nous favorise en nous aidant à mieux parvenir jusqu'à lui, et c'est ainsi que les démons sont enchaînés. Et grâce à cette mesure, nous constatons une diminution des vices et des péchés. Mais ceci ne veut pas dire que les péchés disparaissent à jamais. Loin de là, ce serait trop beau. Il y a seulement une atténuation et une régression de certains péchés dominants. Notons que ce sont les satans les plus diaboliques qui sont enchaînés, et que cela n'empêche pas aux autres de continuer leurs influences et leurs tentations. Mais il est plus facile de s'abstenir de commettre des péchés durant ce mois que dans les autres jours. Il va de soi que les gens commettent certains péchés par habitude, et par contre se retiennent devant certains autres péchés. Mais heureusement qu'avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce mois touche et touchera toujours une majorité d'entre nous. Et nos péchés diminueront avec nos obstinances et notre volonté. Si nous nous tournons vers Allah et lui offrons le jeûne, il nous pardonnera et éloignera de nous le mal. Et comme toute peine mérite salaire, Allah nous récompense pour ce mois de prière et de soumission, lors de la dernière nuit de Ramadan, surtout nous pardonne durant cette nuit, donc à nous d'en tirer le maximum de profit en ce mois de clémence. Et en ce mois, la bénédiction d'Allah ne cesse de se déverser sur nous, et il nous suffit d'y penser. Pour être gracié, il faut accomplir le jeûne et le taraweh avec beaucoup de sincérité et de ferveur. En outre, se repentir à toute heure pour ses fautes et ses péchés. D'après Abu Sa'id al-Khudri radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui jeûne le mois de Ramadan connaît ses limites et évite ce qu'il doit éviter, expie ses fautes précédentes. D'après Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les cinq prières de chaque vendredi et le jeûne de chaque Ramadan sont une expiation de toute faute commise entre elles, à condition d'éviter les grands péchés. Ka'b ibn Ujrah rapporte, qu'une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous pria de nous approcher de ce minbar. Nous nous sommes approchés, puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam escalada le minbar en posant son pied sur la première marche et il murmura « Amin ». Sur la deuxième et la troisième marche, il murmura la même chose « Amin ». Le khutbah, le sermon terminé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam descendit du minbar. Alors on se décida à lui demander une explication sur ce que nous lui avions entendu murmurer en montant le minbar, car on ne l'avait jamais entendu dire ceci en escaladant le minbar. Là-dessus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam répliqua, au moment où j'ai posé mon pied sur la première marche, Jibril alayhi sallam s'est présenté à moi en disant, malheur à ceux qui passent le mois de Ramadan sans se faire pardonner. Là-dessus, je dis, Amin. En posant mon pied sur la deuxième marche, Jibril alayhi sallam reprit, malheur à ceux qui en entendant ton nom n'envoient pas de salutation sur toi. Là-dessus, je dis, Amin. En posant mon pied sur la troisième marche, il continua, malheur à ceux qui en présence de leurs vieux parents, père et mère ou l'un des deux, ne se font pas inscrire parmi les habitants du paradis. Là-dessus également, je répondis « Amin ». Et Abu Dhar radiallahu anhu relate qu'une fois à l'approche du Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le mois du Ramadan, qui est d'une grande bénédiction, est arrivé. Au cours de ce mois, Allah se dirige vers vous, fait pleuvoir ses bénédictions particulières, pardonne les péchés, exauce tous les du'as, admire votre ardeur et la vente auprès des anges. Donc c'est l'occasion de montrer à Allah vos bonnes actions. » Ceux qui seront privés de cette grande bénédiction seront vraiment des infortunés. Dans le hadith cité, Le mot tanafus a été traduit par ardeur, ce qui signifie de travailler dans le but de dépasser un autre comme dans une compétition. Il est temps qu'au cours de ce mois Mubarak béni, les concurrents et les compétiteurs avancent et démontrent leur capacité dans la pratique des bonnes œuvres. Et parlons maintenant des mérites des bonnes œuvres pendant ce mois béni, le mois de Ramadan. Il est recommandé d'être plus charitable pendant ce mois-ci. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, la meilleure charité est celle accomplie pendant le Ramadan. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ici dans un autre hadith, qui donne à manger ou à boire à quelqu'un qui jeûne, d'un bien licitement acquis, les anges ne cessent de prier pour lui durant le Ramadan. L'archange Jibril alayhi salam prie pour lui la nuit du destin. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le plus généreux des humains et plus encore en Ramadan quand Jibril venait le voir. Et les sahabas, les compagnons, étaient à travers leur sacrifice, pitié et générosité envers autrui. Des exemples pour chaque croyant et croyante en quête de qualité et de piété. Ce mois est un mois de mutualité, disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire de solidarité, et particulièrement c'est le moment de venir en aide aux pauvres et sacrifier de ce que nous aimons pour les autres. Dans un hadith, il est dit, Allah protégera contre les atrocités du Qiyama celui qui nourrira un affamé ou qui habillera une personne sans vêtements ou qui donnera l'hospitalité à un voyageur de passage. Et Yahya Barami radiallahu anhu donnait tous les mois 1000 dirhams pour Sufyan Thawri radiallahu anhu. Ce dernier, en échange, demandait des dirhams en sa faveur, en disant, Ya Allah, Yahya m'a aidé dans ce monde, par votre grâce, aidez-le dans l'au-delà. Après la mort de Yahya, quelqu'un le voyant en rêve lui demanda, comment se passait ton jugement? Il répondit, par les dua'as, par les invocations de Soufiane, j'ai été pardonné pour mes péchés. En outre, au cours de ce mois sacré, le prophète sallallahu alayhi wa sallam recommanda de faire quatre choses excessivement. Premièrement, répéter la kalima tayyiba, la ilaha illallah. Répéter cette parole, qui est d'après les hadiths la meilleure des invocations. Il est rapporté d'après Saïd al-Khudri radiallahu anhu, qu'une fois, Moussa alayhi wa sallam dit à Allah, ô Seigneur, enseigne-moi l'art et le moyen de penser à toi, de t'invoquer et de contourner mes desseins vers toi. Dis la ilaha illallah, répondit Allah. Tout le monde le dit, répliqua Moussa, moi je veux une chose que personne ne sait. Ô Moussa, si on met les sept cieux et les sept terres dans un plateau d'une balance, et cette kalima, la ilaha illallah, dans l'autre plateau, ce dernier s'affalera. C'est-à-dire cette kalima, la ilaha illallah, sera plus lourde. Dans un hadith, il dit que celui qui dit cette kalima, la ilaha illallah, avec ferveur, sincérité, verra aussitôt les portes du ciel s'ouvrir pour qu'il puisse arriver jusqu'au trône d'Allah, sans être arrêté ni empêché par un obstacle quelconque, mais ceci à condition qu'il s'abstienne de commettre de graves péchés. Et selon plusieurs hadiths, cette kalima, la ilaha illallah, il n'y a de divinité qu'Allah, est connue comme le plus supérieur de tous les êtres vivants. C'est de par sa supériorité et sa puissance que nous constatons qu'Allah a laissé aux pratiquants une chose d'une valeur incommensurable. La ilaha illallah. Ainsi personne n'en est privé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam recommanda aussi de faire l'istighfar, invocation du pardon de Dieu, demander pardon à Dieu. Selon un hadith, Allah aplanit toutes les difficultés et estompe tous les soucis de celui qui fait beaucoup l'istighfar, qui demande régulièrement et souvent pardon à Dieu subhanahu wa ta'ala. Par ailleurs, il fournit la nourriture là où il ne pense même pas. Il est encore dit que tous les hommes sont des pécheurs, mais les meilleurs d'entre eux sont ceux qui se repentent après avoir péché. D'après un hadith, lorsqu'un homme commet un péché, un point noir s'inscrit sur son cœur. S'il se repent, ce point noir disparaît aussitôt. Au contraire, s'il ne se repent pas et continue à commettre des péchés, au fur et à mesure, ce point grossira jusqu'à ce que tout son cœur devienne noir. Il faut aussi constamment demander sans cesse une place dans le paradis, recommanda le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et aussi demander protection et préservation du feu de l'enfer. Il faut en outre multiplier les prières de nuit pendant le mois de Ramadan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, à qui se lève pour prier pendant les nuits de Ramadan, avec foi et en comptant sur la récompense divine, Dieu pardonne ses fautes passées. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam veillait les nuits de Ramadan. À la dernière décade, il réveillait toute sa famille, ceux qui étaient capables de prier, grands et petits. La lecture du Coran nous est aussi recommandée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam redoublait la récitation du Coran pendant le mois de Ramadan. Jibril alayhi sallam descendait réciter avec lui. Pendant les prières de Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam prolongeait plus que d'habitude ses récitations. Hudhayfa radiallahu anhu fit la prière avec lui une nuit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lit les sourates, la vache, la famille de Umaran et les femmes. Il s'arrêtait à chaque verset comportant une menace pour demander protection. Il fit ainsi deux raka'at, et voici que Bilal radiallahu anhu vint lui annoncer la prière de l'homme. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, le jeûne et la prière de Ramadan intercéderont pour l'homme le jour de la résurrection. Le jeûne dira, Seigneur, je l'ai empêché de boire et de manger pendant le jour. Le Coran dira, Seigneur, je l'ai empêché de dormir la nuit. Accepte notre intercession pour lui. La retraite spirituelle est aussi louable. Elle consiste à garder la mosquée dans un esprit de dévotion pour plaire à Dieu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la retraite la dernière des quatre de Ramadan et ne cessa de la pratiquer jusqu'à sa mort. Il dit, la mosquée est le refuge de tout homme pieux. Dieu a promis à celui qui fait sa retraite de lui accorder sérénité et miséricorde, de le faire traverser le sirat, sans jeter sur l'enfer, pour le faire parvenir à sa grâce au paradis. Et ceux qui en ont les moyens peuvent aussi faire la umra, le petit pèlerinage. C'est la visite de la maison sacrée de Dieu pour y accomplir les tournées rituelles et la marche entre Safa et Marwa. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, une umra pendant Ramadan vaut un grand pèlerinage en ma compagnie. Et parmi les mérites du jeûne, sachez que le jeûne est une ibada, une adoration parmi les plus aimées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cette raison qu'Allah dit dans un hadith Qudsi, c'est-à-dire une traduction attribuée à Allah, toutes les bonnes actions sont rétribuées par l'intermédiaire des anges sauf le jeûne. C'est moi personnellement qui donnera la récompense en faveur du jeûne, parce qu'il n'a été fait que pour moi. Et dans un hadith, il est dit, le jeûne est la porte de toute ibada, de toute adoration. C'est-à-dire que par le jeûne, le cœur s'illumine et fait naître ensuite l'amour pour les autres adorations. Mais cela compte uniquement lorsque le jeûne sera accompli selon les règles de la religion. Le jeûne exerce l'homme à l'endurance, fortifie sa volonté, lui enseigne une autodiscipline, et il crée en lui la crainte de Dieu et la nourrit, et surtout la piété qui est le fondement du jeûne. Allah subhanahu wa ta'ala ne dit-il pas « La'allakum tattaqun » Ainsi atteindriez-vous la piété. Le jeûne habitue la communauté à l'organisation et à l'union, à l'amour de la justice et à l'égalité. Il suscite en elle la pitié et la charité, la préserve de la méchanceté et de la corruption. Du point de vue de la santé, le jeûne assainit les intestins, régénère l'estomac, débarrasse le corps de ce qui lui est néfaste. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Soumou tafihou, je vais vous acquérir la santé ». Au jour de la résurrection, l'odeur de la bouche du jeûneur est pour Dieu beaucoup plus parfumée que le musc. D'ailleurs, le jeûneur a deux plaisirs. Le premier quand il rompt son jeûne, le deuxième quand il rencontre son créateur. Et d'après Abu Huraira radiallahu anhu, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, et Dieu le Très-Haut a dit, tout acte accompli est à l'homme, sauf le jeûne, il est à moi, et j'en donne la récompense. Et Abu Umayya radiallahu anhu a dit, je suis venu dire au messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, ordonnez-moi d'un fait qui mène au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, recours-toi au jeûne. Il n'a pas de pareil. Puis j'ai demandé une deuxième fois la même chose, alors il a dit, recours-toi au jeûne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, recours-toi au jeûne. Il n'a pas de pareil. Puis j'ai demandé une deuxième fois la même chose, alors il a dit, recours-toi au jeûne. Et d'après Abu Sa'id al-Khudri radiallahu anhu, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit, quoi qu'un homme soit un jour en jeûne pour la cause de Dieu, Dieu éloigne le feu de son visage à la distance de 70 automnes, soit 70 années. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Inna Allah wa malaikatuhu yusalluna ala al-mutasahhirin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah et ses anges louent ceux qui prennent leur suhur. C'est un bienfait de la part d'Allah de faire du suhur une chose de mérite pour nous. Ceux qui prennent le suhur seront récompensés, car le suhur est mustahab, préférable. Par contre, beaucoup de gens se privent de cette vertu par paresse. Ainsi, certaines personnes, pour éviter de se réveiller la nuit, prennent le repas du suhur après le taraweh, avant d'aller se coucher. Mais ces gens sont privés de récompense, parce que le suhur, c'est par principe la nourriture qu'on prend avant l'aube. Selon certains ulamas, l'heure du suhur est après minuit. Par contre, d'après d'autres savants, c'est dans la sixième partie de la nuit. Il est donc préférable de prendre le suhur à la dernière heure. Plusieurs hadiths sont rapportés sur la vertu du suhur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, le jeûne et ceux des gens du livre, les juifs et les chrétiens, se diffèrent par le suhur, car eux ne prennent pas le suhur. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam invitait quelqu'un à prendre le suhur, il disait, venez et mangez la nourriture de la baraka, de la bénédiction. Dans un hadith, il est dit, prenez des forces en mangeant le matin et reposez-vous l'après-midi pour pouvoir vous réveiller le matin. Abdullah ibn Harith radiallahu anhu raconte, je suis allé chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. En arrivant là-bas, il était en train de manger et m'a dit, ne manquez pas le suhur car c'est un repas béni dont Allah nous a comblés. Il disait, prenez le suhur même avec une date ou une goutte d'eau. À présent, les jeûneurs doivent prendre leurs précautions pour le suhur, parce que ce sont des récompenses en cadeau de la part de Dieu subhanahu wa ta'ala. Mais il ne faut pas manger trop peu pour avoir faim pendant la journée, ni trop manger pour avoir des indispositions toute la journée durant. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, إن لله تبارك وتعالى عتقاء في كل يوم وليلة، يعني في رمضان، وإن لكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة. Il a rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam que dans le mois de Ramadan, jour comme de nuit, les prisonniers de l'enfer sont libérés. Et toujours, jour comme de nuit, une dua de chaque musulman est exaucée. Beaucoup de hadiths sont rapportés sur l'acceptation des duas du jeûneur. Selon certains hadiths, le dua est exaucé à l'heure de l'iftar. Mais malheureusement, nous ne profitons pas au maximum de cette heure propice, car nous sommes trop occupés par la nourriture. Et nous arrive même d'oublier de lire le dua de l'iftar. اللهم لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت. Et on peut réciter également ce dua comme le faisait Abdullah ibn Amr ibn al-As à l'heure de l'iftar. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. Et on peut même demander n'importe quel dua que l'on désire à Allah subhanahu wa ta'ala, car il n'y a pas de dua particulière à cette heure. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait: le dua, l'invocation de trois catégories de personnes n'est point rejetée par Allah. Le dua du jeûneur à l'heure de l'iftar, la dua d'un roi juste, et la dua de l'opprimé qu'Allah élève au-dessus des nuages et pour qui les portes du ciel s'ouvrent. Après quoi Allah subhanahu wa ta'ala ajoute: certes, je vous viendrai en aide, mais avec un peu de retard pour un motif quelconque. Et Aïcha radiallahu anha raconte que le ramadan étant arrivé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam changeait de teint, augmenter ses prières en s'humiliant beaucoup dans ses duas, jusqu'à ce que la crainte l'emportait. Il est encore dit qu'il restait hors de son lit tout le ramadan durant. Dans un hadith, il est précisé dans ce sens qu'Allah, durant ramadan, recommande aux anges, supporteurs du trône, d'abandonner leurs travaux pour dire « Amin » sur le dua des personnes qui gênent. Nous apprenons selon Mat Hadith que le dua demandé pendant ramadan en particulier est exaucé sûrement, car c'est une promesse d'Allah et elle est rapportée par son envoyé véridique sallallahu alayhi wa sallam. Mais il n'est pas exclu que certaines duas ne voient pas la réalisation de leur projet, que certaines personnes ne reçoivent pas la chose qu'elles demandent. Et là, il ne faut pas penser que son dua a été rejeté, qu'il n'a pas été entendu, car il faut comprendre la signification du terme « acceptation du dua ». Selon un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Lorsqu'une personne demande des duas, il faut que ces duas n'aient aucun rapport avec le mal, la cure des liens familiaux et n'ont aucune empreinte de péché. Et ainsi, soit Allah accorde exactement et immédiatement ce qu'il demande, soit un malheur qui lui était destiné sera écarté grâce au succès de ses dua et il sera préservé de celui-ci, ou soit la même quantité de récompense de ajr de hasanat sera inscrite sur son compte dans le-delà. Et il est dit dans un hadith qu'au jour du jugement dernier, Allah demanderait à un serviteur de se présenter pour lui dire ceci: ô mon serviteur, je t'avais recommandé dans le monde de faire dua et t'avais promis de t'exaucer. L'as-tu fait? Ce serviteur répondra: oui. Alors Allah lui dirait: pas un seul dua que tu as pu faire n'a été repoussé. Tu avais demandé d'être préservé de tel malheur, je t'ai accordé. Tu avais demandé que tel souci soit éloigné, il l'a été invisiblement en étant remplacé par une récompense en ta faveur. Cependant, Allah subhanahu wa ta'ala accorde une chose au serviteur quand il juge que celle-ci est favorable. Au cas contraire, il ne l'accorde pas. Et cela aussi est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, car parfois, sans le savoir, nous demandons des choses qui en réalité sont nuisibles pour nous-mêmes. Ibn Mas'ud radiallahu anhu relate que dans les nuits de Ramadan, un annonceur dit ceci: ô chercheurs du bien, tournez-vous et avancez. Ô vous, ô chercheurs du mal, cessez et ouvrez les yeux. Puis cet ange demande: y a-t-il quelqu'un qui demande la grâce pour qu'elle lui soit accordée? Y a-t-il quelqu'un qui se repente pour que son repentir soit entendu? Y a-t-il quelqu'un qui fait une dua pour qu'il soit accepté? Y a-t-il quelqu'un qui demande quelque chose pour qu'elle lui soit accordée? Cependant, il ne faut pas oublier les quelques conditions nécessaires pour l'acceptation des duas. Car sans ces conditions, le dua est refusé. Par exemple, le fait de se nourrir de choses haram interdites est nuisible au dua. Là-dessus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fit allusion à l'homme qui prolonge ses voyages pieux et qui tend les mains vers le ciel en disant: ô Seigneur, alors qu'il se nourrit de choses interdites, boit des boissons défendues et s'habille d'une manière obscène, comment voulez-vous que ses duas et ses prières soient exaucées? Ce hadith rappelle que le musulman doit être pur tant au point de vue moral dans ses vertus, qu'au point de vue rituel, dans sa nourriture, dans sa boisson, dans ses habits, afin que ses duas soient acceptés. Et il y a quelques conditions primordiales sans lesquelles notre jeûne ne serait accepté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: beaucoup de jeûneurs n'ont comme résultat de leur jeûne que de rester sans manger. Et nombreux parmi ceux qui restent éveillés la nuit ne reçoivent en récompense que la fatigue du sommeil. Et selon les ulama, ce hadith a divers sens. Celui qui jeûne toute la journée pour faire l'iftar avec une des choses haram, illicites le soir, les récompenses qu'il a bénéficiées en jeûnant d'une part et les péchés qu'il a commis en mangeant une chose haram d'autre part, entraînent qu'il lui reste comme résultat que le fait d'avoir eu faim toute la journée et rien d'autre. Et il en est de même pour celui qui jeûne mais qui ne cesse pas de faire le riba, qui fait la médisance, et celui qui garde le jeûne sans s'abstenir des péchés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait « Le jeûne est un bouclier pour l'homme tant qu'on ne le perce pas ». Comme le bouclier était pour l'homme une protection contre l'ennemi, il en est de même du jeûne contre le mal et contre le shaitan. Et d'après un autre hadith, quelqu'un demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam « Comment le jeûne est annulé ?» Le prophète répondit « Le mensonge, la médisance annule le jeûne. Il est strictement recommandé de s'abstenir de commettre ces choses, parce qu'elles entraînent l'annulation du jeûne. C'est ce qu'ont dit certains théologiens. Sans le « eux », le mensonge et la médisance annulent le jeûne comme si l'on prenait de la nourriture ou une boisson. Il est donc très indispensable au jeûneur de prendre en considération six recommandations. Premièrement, préserver les yeux des choses défendues, obscènes, sales, même pas un regard d'envie sur sa femme et surtout pas sur une étrangère. De même, ne point se laisser entraîner les yeux d'autres choses défendues. Le prophète disait, la vue est une des flèches de Shaitan. Celui qui par crainte d'Allah l'évitera, Allah remplira son cœur de la lumière de la foi, de la lumière du iman. Il faut aussi préserver la langue du mensonge et de la médisance, des paroles nuisibles, des disputes et des injures. Un hadith de Bukhari énonce « Le jeûne est un bouclier pour l'homme. Le jeûneur doit donc s'abstenir de dire des paroles blessantes et inutiles, telles que querelles et moqueries. S'il arrive à quelqu'un de chercher querelle, il suffit de lui répondre « Je suis en carême, inni sa'im ». Et s'il insiste, dans ce cas, disons-nous à nous-mêmes « Je suis en carême et je m'abstiens de me laisser emporter, surtout pour le mensonge et la médisance et la colère. La médisance et le mensonge annulent le jeûne comme il a été mentionné ». Une fois au temps du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, deux femmes avaient jeûné. À la fin du jour, elles commençaient à avoir si faim qu'elles se sentaient mourir. Les sahaba radiallahu anhum mirent le prophète sallallahu alayhi wa sallam au courant de ce fait. Aussitôt, le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoya par les sahaba un bol aux deux femmes en leur priant de vomir dans le bol. Elles rejetèrent dans le bol des morceaux de viande et du sang frais. Là-dessus, les sahaba restèrent étonnés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur expliqua que ces deux femmes commencèrent leur jeûne avec de la nourriture halal licite, mais qu'à la fin du jour, elles avaient fait quelque chose de haram, d'interdit, c'est-à-dire qu'elles étaient en train de faire le riba, de la médisance. Il est très nécessaire d'éviter les péchés, le riba en particulier, car actuellement cette chose est devenue un passe-temps pour la plupart des gens. Dans un passage du Coran, Allah relate la médisance comme quelqu'un qui mange le cadavre de son frère. Cela est approuvé également par plusieurs hadiths. Qu'Allah nous préserve, car nous sommes insouciants dans ce domaine. Nous croyons que garder le jeûne, c'est tout simplement ne pas manger, et nous oublions les recommandations. Quelqu'un questionna le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur la médisance, sur le raïba. Le prophète lui répondit, le raïba consiste à dire en l'absence de quelqu'un des paroles sur son compte qu'il serait mécontent d'entendre. La personne redemanda. Mais si ce que l'on dit est cependant vrai? C'est justement cela le raïba, répliqua le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Au cas contraire, ce serait du buhtan, de la calomnie. Le jeûneur doit aussi préserver ses oreilles de toutes choses interdites, d'entendre et d'écouter. Et aussi de préserver ses autres membres contre le mal, tels que d'empêcher la main de toucher une chose malsaine, défendue, les pieds de marcher vers elle, etc. Il faut aussi s'abstenir à l'heure de l'iftar de manger des choses de nature et de provenance douteuse. La personne qui jeûne et le soir rompt son carême avec une chose haram illicite est comme quelqu'un qui prend un médicament pour combattre une maladie, mais qui ajoute à ce médicament une dose de poison. Le résultat est le même. Il ne faut pas remplir son estomac jusqu'au dernier degré, car le but du jeûne est de diminuer et d'estomper nos instincts bestiaux et renforcer notre sens spirituel. Après avoir bien mangé pendant 11 mois, si on diminue son repas durant 30 jours, on n'en mourra pas. Seulement, nous autres, au lieu de diminuer nos repas, voilà ce que nous faisons. En prenant le sahur le matin, nous faisons une réserve pour la journée. Nous rattrapons à l'heure de l'iftar ce que nous avons perdu au cours de la journée. Et l'imam al-Ghazali rahimahullah relate, si quelqu'un récupère dans l'iftar ce qu'il a perdu dans la journée, comment le jeûne atteindra-t-il son but? N'oublions pas que le but du jeûne est de diminuer nos envies permanentes. C'est le moment ou jamais de nous sacrifier un peu. Le grand profit du carême, c'est qu'il abat nos instincts, ou du moins devrait abattre ses instincts, souvent bestiaux. Il est très important pour les jeûneurs d'être toujours craintifs, après avoir jeûné, et ainsi que pour les autres ibadats, les autres adorations. Parce qu'il se peut que ces jeûnes et ces ibadats, ces adorations, soient inacceptables auprès d'Allah. Car parfois, il arrive dans un moment d'inattention de commettre une erreur ou une imprudence qui annule nos bonnes actions. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, parmi les premiers jugés au jour du jugement, il y aura le shahid, le martyr, Il sera présenté devant Allah et on lui rappellera toutes les grâces d'Allah qu'il avait reçues sur la terre. Lorsqu'il aura accepté tous ces faits, on lui demandera « Qu'avez-vous fait pour toutes ces grâces ?»« J'ai combattu dans votre chemin, » répondra-t-il, « jusqu'à ce que je fus martyrisé. » On lui dira que tout ça n'est que mensonge. Vous avez combattu pour qu'on vous appelle l'homme brave. Et l'on vous a ainsi nommé. Maintenant, votre place est dans l'enfer. Et il y aura aussi le alim, le savant. Après avoir énuméré tous les bienfaits d'Allah qu'il a acquis sur la terre, on le questionnera sur ce qu'il avait fait en reconnaissance de cette grâce. Il dira, j'ai étudié la science pour l'enseigner aux autres. Puis j'ai lu le Coran pour avoir ton contentement. C'est faux, dira-t-on. Tout cela n'a été que pour vous faire appeler alim, savant. Et l'on vous a nommé ainsi. Et on le fera prendre le chemin de l'enfer. Puis, après, ce sera le tour du riche de se présenter. Toutes les grâces d'Allah lui seront également rappelées, et il sera questionné sur l'utilisation de ses richesses. Il répondra, « Je n'ai laissé aucun travail de mérite de s'échapper de mes mains. » On lui dira que c'est faux. Vous aviez voulu l'opulence, vous l'avez eu déjà, et il sera de même jeté dans l'enfer. Qu'Allah nous préserve de toutes ces choses. Tout cela n'est que le résultat de la mauvaise intention, un niya. C'est pourquoi le jeûneur doit être toujours dans la crainte, tout en surveillant son intention, en faisant dua pour que ses carêmes soient acceptés par Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faut jamais prendre nos actions comme chose parfaite, car notre dernier espoir doit être sur la clémence et sur la grâce du Tout-Puissant. Et pour terminer, rappelons Inch'Allah quelques règles fondamentales du jeûne. Parmi ces règles fondamentales, il y a tout d'abord l'intention. L'intention, c'est la ferme résolution d'accomplir le jeûne en signe de soumission à Dieu et avec le dessein de demander sa grâce, car tout acte dépend de l'intention qu'il inspire. Innama al-a'malu binniyat. Quand le jeûne a un caractère obligatoire tel que le ramadan, l'intention doit être formulée la nuit avant l'aube. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, le jeûne de celui qui n'a pas manifesté l'intention de jeûner dès la veille est nul. Mais s'il est surérogatoire, l'intention est acceptée même après l'aube, même après le lever du soleil, à condition de n'avoir rien mangé, rien bu. Aïcha radiallahu anha dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam entra un jour chez moi et dit, avez-vous de quoi manger? Non, lui dis-je. Alors je jeûne, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comme règle fondamentale, il y a aussi l'abstinence, c'est-à-dire éviter tout ce qui rompt le jeûne, c'est-à-dire le boire, le manger et le rapport sexuel. Quant à la durée d'abstinence, c'est toute la journée, de la pointe de l'aube au coucher du soleil. S'abstenir la nuit et manger le jour n'est pas du jeûne. Si bien que Dieu subhanahu wa ta'ala nous ordonne d'observer le jeûne jusqu'à la nuit. Il y a en outre des actes louables, des sunnas du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est désireux d'hâter la rupture du jeûne dès le coucher du soleil. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, on ne cesse d'être dans la bonne voie tant qu'on s'empresse de rompre le jeûne. Et Anas radiallahu anhu dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a toujours accompli la prière du maghreb pendant Ramadan après avoir rompu le jeûne, même par une gorgée d'eau. On peut en outre rompre le jeûne avant la prière du maghreb par des dates, sinon par de l'eau. Il est souhaitable que le nombre des dates soit impair, 3 ou 5 ou 7. Anas radiallahu anhu dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam rompait le jeûne en prenant des dates avant de prier, sinon quelques gorgées d'eau. On peut aussi invoquer Dieu au moment de la rupture des jeûnes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait en disant, Seigneur, c'est pour toi que j'ai jeûné, j'ai rompu mon jeûne en goûtant de ton bien, veille à gré notre œuvre, tu es celui qui entend tout, dont la science est infinie. Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu, fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Ibn Omar disait, par ta miséricorde qui s'étend à toute chose, je t'implore de pardonner mes fautes. Quant au repas de fin de nuit, as-sahur, c'est celui qu'on prend après minuit avec l'intention d'accomplir le jeûne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ce qui distingue notre jeûne de celui des gens du livre, c'est le repas de fin de nuit. Et il a dit aussi, prenez le repas de fin de nuit, il est toute bénédiction. Il est louable aussi de retarder l'heure de ce repas jusqu'à la fin de la nuit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, mon peuple se portera bien tant qu'il hâte la rupture du jeûne et retarde le repas de fin de nuit. Ce temps commence à minuit pour se terminer avant l'aube de quelques minutes. Zayd bin Thabit dit, nous avons pris le repas d'après minuit avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. À peine qu'il eut fini, il se leva pour accomplir la prière du matin. Après combien de temps, lui demanda-t-on? Le temps de lire 50 versets, dit Zayd. Qui doute de l'heure de l'aube peut continuer à manger jusqu'à certitude. Allah subhanahu wa ta'ala nous permet ainsi de manger et de boire jusqu'à ce que l'on voit se détacher sur le fond noir de la nuit la lueur de l'aube naissante. Une personne vint dire à Ibn Abbas radiallahu anhu, je mange, mais quand je doute de l'heure, je m'abstiens. Mais non, lui dit Ibn Abbas, mange tant que tu doutes, jusqu'à ce que tu ne doutes plus. À propos du jeûne, il y a aussi des actes à éviter. Et tout en étant autorisés, ils peuvent conduire à l'annulation du jeûne. Il faut éviter par exemple d'exagérer le rinçage de la bouche et l'aspiration de l'eau par le nez au moment des ablutions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Aspire profondément de l'eau, à moins que tu ne sois en jeûne. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a déconseillé de peur d'avaler de l'eau et de rompre le jeûne. Il faut éviter aussi d'embrasser sa femme avec un désir charnel, de fixer longuement le regard sur sa femme avec un désir, d'évoquer des images concernant la sexualité, de toucher une femme avec la main ou une partie du corps, de goûter une sauce pour voir si elle est suffisamment assaisonnée, ou alors de se rincer la bouche sans nécessité en dehors des ablutions, d'enduire les paupières de kuhl le matin, l'après-midi il n'est pas décommandé, de pratiquer une saignée par l'emploi de ventouses ou d'autres, de crainte de perdre ses forces et finir par rompre le jeûne. Par contre, certains actes annulent complètement le jeûne. Le jeûne est annulé par l'arrivée à l'estomac d'un liquide par le nez, l'œil ou l'oreille. En outre, tout ce qui parvient à l'estomac, à la suite d'un rinçage exagéré de la bouche, d'une aspiration de l'eau pendant les ablutions. Ce qui peut annuler aussi le jeûne, c'est le vomissement provoqué. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Qui vomit volontairement doit refaire son jeûne ». Le jeûne est annulé également en cas de contrainte à manger, à boire ou à accomplir l'acte sexuel. Il est annulé aussi par le fait de boire et manger, croyant qu'il est encore nuit, puis il se révèle le contraire. Ou boire et manger en pensant que la nuit est tombée, alors qu'il fait encore jour. Ou encore boire et manger par inadvertance, puis continuer à le faire, pensant que le jeûne étant rompu, on n'est plus obligé de l'observer, et on continue ainsi jusqu'à la fin de la nuit. Ou encore avaler un solide non nourrissant, tel que perles ou ficelles, par exemple. Et Ibn Abbas dit, le jeûne est annulé par ce qui entre et non par ce qui sort. C'est-à-dire par ce qui arrive à l'estomac et non par ce qui sort du corps tel que sang et matière vomie. L'intention de rompre le jeûne, même sans boire ni manger, peut aussi annuler le jeûne. Ou encore renier sa foi annule aussi le jeûne, même si on y retourne. Tous ces actes annulent le jeûne et obligent à le refaire sans toutefois exiger de réparation expiatoire. L'expiation est nécessaire en deux cas. Dans le premier cas, dans le cas d'un rapport sexuel volontaire et sans contrainte. Abu Huraira rapporte ce qui suit. Un homme vint trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam et dit « Me voici perdu ». « Qu'est-ce qui te fait perdre ?» lui dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. « J'ai usé de ma femme en ramadan, » répondit l'homme. « Trouves-tu de quoi affranchir un esclave ?» lui dit-il. « Non, » dit l'homme. « Trouves-tu de quoi nourrir 60 pauvres ?» dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. « Non plus, » dit-il. L'homme s'assit. À ce moment, on apporta un grand panier de dattes au prophète sallallahu alayhi wa sallam. « Prends ces dattes et distribue-les aux pauvres, » lui dit-il. « À qui les donner ? Y a-t-il de plus dénué que moi ?» répondit l'homme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fit un large sourire et dit « Va les donner à ta famille. » Et le deuxième cas, c'est le cas où l'on boit ou on mange sans motif valable. Un certain nombre d'actes sont autorisés pendant le jeûne. Il est permis dans un premier temps de se frotter les dents avec l'araq, de se rafraîchir avec de l'eau froide quand il fait chaud, soit en se baignant, soit en s'en aspergeant. Ou encore de boire, manger et d'avoir des rapports conjugaux pendant les nuits de Ramadan. Ou encore de voyager pendant le ramadan dans un but exempt de péché, même en sachant que ce voyage nécessiterait la rupture des jeûnes. Ou encore, il est autorisé de se faire soigner par toutes sortes de médicaments licites, à condition qu'ils n'atteignent pas l'estomac, telle qu'injection faite pour le soin et non pour la nourriture. Il est aussi autorisé de mâcher un aliment pour un bébé qui ne peut s'en passer et qui ne trouve pas une autre personne pour le servir. Néanmoins, il faut se garder d'en avaler. On peut aussi se parfumer ou encenser ses habits. Tous ces actes sont autorisés car rien n'a été signalé pour les déconseiller. Quant aux actes excusables, il est toléré d'avaler sa propre salive, même abondante, de vomir involontairement des aliments ou des humeurs à condition qu'une fois arrivé à la bouche, de n'en rien retourner à l'estomac. Il est aussi excusable de se retrouver le matin en état de janaba à la suite d'un rapport sexuel avec sa femme, même si on passe toute la journée en cet état. Il est aussi excusable de boire et de manger par mégarde ou par oubli. L'imam Malik juge qu'il est nécessaire de refaire le jeûne quand il est de caractère obligatoire par précaution et de ne pas le recommencer quand il est surrogatoire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Quand celui qui jeûne boit ou mange par mégarde, qu'il poursuive son jeûne, c'est Dieu qui l'a nourri et qui lui a donné à boire. » Et il dit aussi « Qui rompt son jeûne par mégarde en ramadan n'a pas à le refaire ni à subir d'expiation. » Mes frères et sœurs, n'ayant pas le temps d'évoquer dans ce rappel toutes les règles de jurisprudence concernant le jeûne, je vous invite tous et toutes à consulter les savants et les imams afin de vous éclairer davantage, Inch'Allah. Et enfin, pour terminer, je vous invite tous, mes frères et sœurs, à méditer sur ce verset de Dieu subhanahu wa ta'ala où il dit « Wa ta'awanu ala al-birri wa taqwa » « Entrez de vous dans le bien et les œuvres pieuses ». Et d'où l'importance de profiter de ce mois béni pour créer une ambiance dans nos mosquées où les frères et sœurs se retrouvent, se conseillent, se protègent contre les nuisances de Shaitan qui n'a aucun répit pour ceux qui s'isolent des demeures de Dieu et ne cherchent pas à rencontrer et à aimer leur frère en Dieu, afin de chercher ensemble, auprès d'Allah et avec son aide, le bonheur, la miséricorde, la guider et Inch'Allah la réussite dans ce bas monde et dans la vie éternelle. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا حلالا طيبا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وتوبة نصوحة وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا واشف به يا ربي أمراضنا واشرح به يا ربي صدورنا اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت وعافينا بفضلك فيمن عافيت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت يا أرحم الراحمين يا رب العالمين ربنا لا تؤاخذنا إذ نسينا واخطأنا ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اصلح شباب المسلمين وبنات المسلمين ونساء المسلمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اجمع شمل المسلمين اللهم وحد صفوفهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين